écoutez le podcast en français d'Investigate Europe. Je suis Anne-Laure Pinault, aujourd'hui je suis derrière le micro, mais d'ordinaire je traduis les enquêtes en français pour cette coopérative de journalisme cross-border que vous connaissez bien. Il y a quelques semaines, nous revenions avec Leila Mignano sur l'enquête terrifiante qu'ont menée les journalistes d'Investigate Europe sur les entreprises privées qui tirent profit du système. Nous vous avions parlé des souffrances générées par la gestion tayloriste de ces EHPAD privés, à la fois sur les patients et leurs familles, mais aussi sur le personnel parfois formé à la va-vite et souvent à bout de force. Depuis ces premiers articles, nos journalistes ont continué à fouiller dans les sales tiroirs des manias de l'or gris. Ils et elles se sont en particulier concentrés sur la gestion du personnel du numéro 1 des EHPAD privés en Europe, Orpea. Ils et elles ont découvert tout un système, détournement de mission, fausses idées de remplacement, qui a permis au groupe de capter une partie des deniers publics destinés au bien-être des résidents et résidentes, et non à celui des actionnaires. Ils ont révélé l'existence d'une holding secrète, l'IPANI, domiciliée au Luxembourg, qui a mené d'obscures transactions dans plusieurs pays d'Europe et ont mis à jour un réseau d'intermédiaires dont les grasses commissions transitent par les paradis fiscaux, visant à assurer la mainmise du groupe sur le secteur et le patrimoine immobilier de l'entreprise. C'est sur ce dernier point que va se concentrer notre podcast du jour. Pour ça, nous allons parler avec Leila Mignano et Maxence Peignet, notre journaliste basé à Londres. Bonjour Leila, bonjour Maxence.
Bonjour. Bonjour.
Comment allez-vous quelques jours après la publication du dernier volet de cette série à tiroir sur Orpea? Pas trop fatigué?
Ça va mieux, on a eu le temps de se reposer un petit peu et on est assez content de l'impact que ça a eu, je pense.
Génial, on va en parler bien sûr. Derrière le nom Orpea se cache une myriade de sociétés qui sont liées au Luxembourg pour certaines. Et un nom revient souvent, comme on le lit bien dans l'enquête, c'est l'IPANI. C'est quoi le rôle de la holding avec Orpea? Peux-tu nous expliquer, Maxence?
Alors en fait, l'IPANI, c'est une société assez obscure qui a été créée en 2007 au Luxembourg. Et au moment de son enregistrement, les deux actionnaires, c'était deux autres entreprises qui sont basées dans les paradis fiscaux, aux îles Vierges britanniques et au Panama. Entre 2007 et 2009, l'IPANI ne sert strictement à rien. Et à partir de 2009, on s'est rendu compte que l'IPANI a accumulé des millions d'euros d'actifs qui étaient rattachés en fait aux activités d'Orpea à travers l'Europe. Sauf que l'IPANI, sur le papier, n'est absolument pas liée à Orpea. Donc c'est là qu'on a commencé à faire des recherches.
Et ce que vous avez découvert, c'est que la holding a accumulé en effet des millions d'euros, mais a aussi multiplié les activités douteuses.
Exactement. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que pendant plus de 15 ans, en fait, les cadres historiques d'Orpea ont fait transiter des millions d'euros depuis les caisses d'Orpea vers les caisses de l'IPANI. 92 millions d'euros d'actifs. Et ça se rattachait quasiment systématiquement à de l'immobilier d'Orpea, principalement en Italie et en France, mais aussi en Belgique et en Allemagne. Et ce qui fait qu'Orpea, maintenant, paye des loyers à l'IPANI. En Italie seulement, Orpea et l'IPANI se sont vendus 14 sociétés en 8 ans. Mais c'est peut-être en France, finalement, qu'on a trouvé le plus surprenant partenariat, puisque l'IPANI dispose de plusieurs filiales qui construisent des résidences avec Orpea, sauf qu'elles sont toutes détenues à majorité par l'IPANI, mais dans leur compte, elles se déclarent fiscalement intégrées à Orpea, ce qui est un avantage fiscal qui est normalement autorisé que lorsqu'on est détenu à 95% par un groupe, ce qui n'est pas le cas. En plus, toutes ces filiales sont domiciliées au siège d'Orpea, leur directeur et l'ancien directeur financier d'Orpea, Sébastien Ménard. Et dans l'ensemble de leurs comptes, on voit la directrice des affaires juridiques d'Orpea qui signe les déclarations de l'actionnaire unique. Or, quand on a demandé à Orpea, en fait, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, ils nous ont tout simplement dit que c'était faux, que les comptes étaient erronés. Et puis par la suite, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas répondre à nos sollicitations parce qu'ils avaient déjà déposé une plainte pour abus de biens sociaux, ce qui confirmait quand même une grande partie de notre investigation.
Oui, on voit qu'il y a des personnages qui se promènent de ci, de là, d'une frontière à l'autre, d'une boîte à l'autre. C'est assez fou comme système, c'est alambiqué.
Ce qui est assez dingue, en fait, c'est que sur le papier, l'IPANI, comme on l'a dit, n'appartient pas du tout à Orpea. Et Orpea nous a même dit n'avoir jamais détenu une seule action dans l'IPANI. Selon le registre luxembourgeois, l'IPANI appartient à l'heure actuelle à 100% à un homme qui s'appelle Roberto Tribuno, qui est l'ancien chef d'Orpea en Italie. Ça a été l'homme fort de tout le développement d'Orpea en Italie. Et c'est lui le bénéficiaire ultime déclaré de l'IPANI. Sauf que ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que dans la myriade de filiales de l'IPANI, il y en a une quarantaine, à chaque fois on retrouve des cadres d'Orpea, notamment l'ancien directeur financier, Sébastien Ménard, mais on a aussi retrouvé l'actuel chef d'Orpea en Italie, Thibaut Sartini, ou encore l'ancien numéro 2 d'Orpea, Jean-Claude Bredenc. Et systématiquement, ces personnes, en fait, se sont retrouvées à la tête de filiales de l'IPANI, alors que, encore une fois, comme on le disait, l'IPANI n'est pas censé appartenir à Orpea, donc ça a soulevé tout un tas de questions. Et ça a aussi donné lieu à des transactions avec de potentiels conflits d'intérêts, où en fait on se rendait compte que quand une filiale ou de l'immobilier était vendue de Lipani à Orpea, les personnes qui signaient, c'était des collègues ou même de la même famille. On a eu le père de Roberto Tribuno qui avait tendance à signer pour Lipani, tandis que son fils signait pour Orpea et du coup récupérait tous ses actifs.
Ouais, c'est un vrai enchevêtrement d'hommes de paille. Et vous avez mis justement à jour un système de rétribution de ces fameux intermédiaires à travers les paradis fiscaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu déjà comment vous avez enquêté, parce que ça a dû être ardu, et ce que ça suppose aussi en termes de légalité?
Alors en fait, ce qui était particulièrement obscur dans cette holding, c'est qu'elle servait à mener différentes opérations dans différents pays d'Europe. Donc là, on vous a parlé surtout de l'Italie. Mais en France, ce qui a attiré notre regard, c'est que Lipani avait servi à couvrir une commission occulte, donc de 700 000 euros, versée à un intermédiaire au Luxembourg. C'est le deuxième volet de l'enquête qu'on a publié. Orpea, donc du coup au fil des années, se battait un peu pour décrocher des autorisations d'ouverture d'EHPAD. En France, c'est totalement gratuit, mais pour obtenir une autorisation d'ouverture, il faut des garanties, et c'est bien normal, de sécurité, de santé, d'avoir les moyens d'accueillir les personnes dignement. Et donc du coup, c'est des autorisations qui sont relativement difficiles à obtenir. Et bien grâce à ces intermédiaires, qui avaient des carnets d'adresses bien remplis auprès des autorités locales, ils réussissaient à décrocher rapidement ces autorisations. Donc du coup, une de ces commissions, donc 700 000 euros, pour un établissement ouvert dans les Ardennes, donc c'était l'établissement Patrice Groff, qui est toujours ouvert à Charleville-Mézières, Orpea avait versé cette commission de 700 000 euros via une société au Luxembourg. L'autre partie de cette commission, parce qu'au final la totalité de cette commission c'était 1,5 million d'euros, avait été versée via une autre société en Suisse. Donc là c'est le cas d'une commission, mais ensuite on révèle qu'il y a eu trois autres commissions, et certainement d'autres, hein. C'est les seules qu'on a été possiblement dont on a pu retrouver la trace. Une autre, donc c'était 2,5 millions d'euros sur deux établissements dans les Bouches-du-Rhône. Une autre sur un terrain donc à Charleville-Mézières, etc. Donc, du coup, c'était ce qu'on a réussi à démontrer, c'est la potentialité de l'existence d'un véritable système de commission sur des autorisations gratuites. Et Lipani a servi à couvrir au moins l'une d'entre elles.
En tout cas, quand on parle de journalisme d'impact, là, on peut vraiment dire qu'on est dedans, hein. Cette enquête a eu beaucoup d'impact. Alors certes, il y a eu le livre de Victor Castanet qui a un peu obligé le gouvernement à se pencher sur la situation des EHPAD. Je pense que ce n'était pas une intention première du gouvernement, très personnellement. Et vos enquêtes qui désormais secouent le parquet de Nanterre, entre autres, est-ce que vous pouvez nous remonter un peu tous les impacts qu'ont eu ces différentes enquêtes?
Alors la dernière enquête, donc celle sur la holding de Lipani, donc l'impact a été très surprenant, y compris pour nous, puisque en fait le jour de la publication, les actions d'Orpea se sont effondrées. Effondrées, ils ont perdu 20%. Le lendemain, ils ont encore perdu 10%. L'ex-directeur financier dont on dénonçait les agissements dans notre article, en fait, et remercié, donc ce qu'il nous disait, mis en disponibilité. Et on a aussi appris que sur les faits qu'on dénonçait, donc du coup, une enquête du parquet de Nanterre avait été également ouverte. Sachant que Orpea est aujourd'hui en difficulté avec la justice à plusieurs égards, hein. Il n'y a pas que notre enquête. Donc le parquet financier enquête donc sur la transaction dans les Bouches-du-Rhône, notamment, dont on parle. Le parquet de Nanterre enquête sur visiblement Lipani depuis la semaine dernière, mais également sur les faux contrats qu'on révélait en janvier. Et le siège d'Orpea a été perquisitionné, notamment sur cette question, et évidemment sur tous les cas de maltraitance et de détournement de fonds dénoncés par le fabuleux livre du journaliste indépendant Victor Castanet. Je pense qu'il a vraiment réussi, par son ouvrage, à mettre la question des EHPAD sur la table. Une question qui était vraiment réservée à des journalistes experts jusque-là, et qui aujourd'hui atteint de manière importante la presse nationale et la presse d'investigation. C'est devenu un vrai sujet. Et c'est notamment et même surtout grâce au travail de Victor Castanet.
Et au vôtre, en tout cas, vraiment, merci pour votre travail de fourmi, parce que je pense, enfin, je sais parce que je l'ai vu, que ça a été dur de travailler sur ces questions-là, de fouiller dans tous ces tiroirs. On attend impatiemment le prochain tiroir que vous ouvrirez sur Orpea. Puis bah, merci beaucoup pour vos éclairages. À très bientôt. Si vous souhaitez écouter les autres épisodes relatifs à d'autres enquêtes, vous pouvez les retrouver sur le site Investigate Europe. Quant à nous, on se retrouvera bientôt pour une prochaine enquête. À très bientôt tout le monde.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir.